Bonjour, je vais prier. Seigneur Jésus, je te prie pour que la parole que je vais annoncer là puisse faire du bien à chacun et à chacune. Merci Jésus. Amen. À un moment donné dans la vie de chacun d'entre nous, on se bat avec trois questions basiques. Je vous disais ça l'autre jour. La première question, c'est notre existence. Pourquoi est-ce que je suis en vie? La seconde question, c'est « Mais est-ce que ma vie compte ?» Et la troisième question, c'est « Quel est mon but ?» Vous savez, Dieu n'a jamais rien créé sans but. Puisque vous vivez, vous pouvez être certain que Dieu a un but pour votre vie. La Bible dit « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Mais voilà le problème. Chacun de nous s'est plus ou moins égaré du plan voulu de Dieu pour nos vies, comme un train qui quitte les rails. On a déraillé à cause de notre entêtement, à cause de leurs choix immoraux. La Bible dit que nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait sa propre voie et le Seigneur a fait retomber sur Jésus nos fautes à nous tous. On trouve ça dans Ésaïe 53, verset 6. Alors bien que Dieu ait créé chacun de nous pour un but, nous avons tous pris de nombreux détours dans la vie pensant que nous savions mieux. On sait mieux. Alors Dieu a dû envoyer Jésus comme sauveur pour nous racheter du péché, pour réorienter la direction de nos vies et nous reconduire vers ses plans initiaux pour nos vies. Nous ne sommes pas simplement sauvés du mal, nous sommes sauvés pour le bien. Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est revenu à la vie pour eux. On trouve ça dans 2 Corinthiens 5, 15. Alors, pendant des années, le verset de ma vie a été Actes 13, 36. David a servi en son temps le plan de Dieu et puis il est mort. Cette phrase, il a servi en son temps le plan de Dieu, c'est la définition ultime d'une vie bien vécue. Vous passez votre vie à faire ce qui est intemporel et éternel, le plan de Dieu d'une manière contemporaine dans votre temps. Vous savez ce qui ne changera jamais, la parole de Dieu dans un cadre qui change constamment le monde. Et voilà ce que signifie vivre une vie motivée par l'essentiel. Il n'y a pas de plus grande aventure, rien de plus épanouissant, pas de meilleure façon de laisser un héritage durable de notre vie. Imaginez cette phrase écrite sur votre pierre tombale. Je souhaite que tant d'autres puissent dire cela de vous quand vous mourrez et que vous avez servi le plan de Dieu en votre temps. C'est pourquoi la Bible dit « Offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier les diverses parties de votre corps à son service comme instrument de ce qui est juste. » Vous trouvez ça dans Romains 6, 13. Rien n'est comparable à la sensation d'être utilisé par Dieu pour un grand but. C'est le plus profond désir du cœur du disciple de Jésus. Et une autre expérience ne peut pas prendre sa place. C'est pour cela que vous avez été créé. Dans mes prédications, j'explique que chacun vit à un de ces trois niveaux, la survie, le succès ou le sens. La plupart du monde vit au niveau de la survie. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. La moitié des milliards de gens qui peuplent ce monde vivent avec moins de 2 dollars par jour, vous imaginez? 2 euros par jour et encore. Plus d'un milliard vivent avec moins d'un euro par jour. C'est le niveau de survie. Si vous vivez en France, vous vivez au niveau du succès, même si vous vous sentez pauvre. Hein. La plupart du monde adorerait avoir vos problèmes, hein. Franchement. Hein. Mais le succès ne satisfait pas. Vous pouvez avoir beaucoup pour vivre et toutefois n'avoir aucune raison de vivre. Vous pouvez être tellement occupé à gagner votre vie que vous échouez de vivre. Vous échouez à vivre votre vie. Vous avez été créé bien plus que pour le succès. Vous avez été créé pour un sens. Mais vous ne trouverez jamais de sens dans les biens, dans les plaisirs, dans les distractions, dans le travail poussé à l'excès. Le sens vient avec le service. Donner votre vie pour un grand but, pour un but plus grand que vous-même. Ça, c'est... Jésus a dit, si vous vous préoccupez à sauver votre vie, vous la perdrez. Seuls ceux qui donnent leur vie pour moi, à cause, pour ma cause, et pour la cause de la bonne nouvelle, seront à jamais ce que cela veut dire réellement de vivre. C'est dans Marc 8, 35 que Jésus déclare ça. Alors quand vous commencez enfin à accomplir le plan pour lequel Dieu vous a créé et pour lequel Jésus vous a sauvé, vous réalisez, ça c'est mon créneau. C'est pour ça que je suis en vie. C'est ça ma raison d'être. Maintenant, je sais pourquoi j'existe. Aucun succès au monde ne vous donnera jamais cette profonde satisfaction. Il y aura toujours un vide dans votre cœur parce que vous avez été créé pour connaître, pour aimer, pour faire confiance et servir Dieu. Alors, laissez-moi vous poser deux questions. Sachant que rien de ce que vous avez essayé n'a complètement satisfait votre désir dans votre âme, pourquoi ne pas accepter Jésus comme sauveur? Votre passé vous est pardonné, vous obtenez un plan pour votre vie et vous héritez d'une maison au paradis. Personne d'autre ne peut faire ce genre d'offre. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. En pratique, dans tous les domaines de la vie, à l'école, au sport, au travail, on est jugé sur nos performances. L'éthique du travail en France est basée sur l'effort, la sueur, la compétition, le dur labeur. En grandissant, les Français apprennent que les repas gratuits, ça n'existe pas. J'avais prêché ça il y a longtemps. Un repas gratuit, ça n'existe pas. Vous obtenez ce pour quoi vous avez payé. Si c'est à faire, ça dépend de moi. Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, ben faites-le vous-même. Et Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Il y a ce petit proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors, quand on en vient au spirituel, beaucoup supposent que Dieu entretient avec nous des rapports sur le même genre d'éthique basé sur la performance. Et beaucoup pensent peut-être qu'ils doivent gagner l'approbation de Dieu, mériter l'amour de Dieu, travailler pour demeurer au paradis en faisant de bonnes œuvres ou en essayant d'être parfait. Si c'est comme ça que vous le voyez, eh ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Voilà ce que la Bible dit sur ce que vous devez faire pour être sauvé. Les gens demandent un jour à Jésus, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Et Jésus leur a répondu, Voilà ce que Dieu désire. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Le salut ne porte pas sur un essai, mais sur la confiance. Il n'est pas ici question de prouver que vous méritez, mais d'accepter que c'est par la foi que vous obtiendrez ce salut, tout en sachant que vous ne le méritez pas. Vous savez, l'idée de la grâce est tellement étrangère et antithétique, c'est un mot plus compliqué, aux fausses idées répandues sur Dieu, même dans les autres religions, que quand la Bible parle du salut comme un don gratuit de la grâce de Dieu, beaucoup de gens répondent d'un air ébahi, sont tout béats, tout étonnés. Il y a comme une déconnexion mentale et émotionnelle. Nous sommes tellement habitués à être aimés sous condition. Je t'aimerai si, ceci, si, cela. Ou je t'aime parce que. Que la grâce inconditionnelle, c'est un concept qui ne nous est pas familier. Et même, ça nous met mal à l'aise. La religion est parfois une tentative pour l'homme de plaire à Dieu. La grâce, c'est Dieu qui vient jusqu'à l'homme. Toutes les religions se résument à « fais ceci, fais cela ». Non. Exécute notre liste et de choses et tu gagneras l'amour de Dieu. Chaque religion a sa propre liste unique de règles. Or, si on compare les listes, on se rend compte qu'elles sont souvent contradictoires. Non, vous avez pas remarqué, moi j'en ai fréquenté beaucoup parce que, en travaillant avec Teen Challenge, j'ai eu le privilège de pouvoir entrer dans des dizaines de dénominations différentes et j'ai vu comment ça se passe. C'est très contradictoire. La principale idée derrière ces religions, c'est que tu dois travailler, lutter et faire beaucoup d'efforts pour que Dieu t'apprécie. Alors Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus pour nous dire essentiellement « Non, vous vous trompez ». Bien entendu, c'est important de faire le bien, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce qui va faire que je vous aime plus ou moins. Dieu vous dit « Mon amour pour vous est illimité, inconditionnel, immérité et il ne change pas ». Je vais vous enseigner un nouveau concept, la grâce. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas la gagner par le travail. Ou être assez bon pour la mériter. C'est un cadeau qui va coûter et qui a coûté très cher à Dieu. Mais il est gratuit pour vous. Dieu vous dit tout ce que je fais pour vous, à vous, en vous, à travers vous. Chaque bénédiction que vous avez dans la vie, c'est un don de ma grâce. J'ai tout accompli pour vous. Alors, d'une certaine... certaines fausses croyances attribuées à la religion sont basées sur le mot « fais-le », « fais ceci », « fais cela ». Le salut est basé sur le mot « fais ». Quand Jésus est mort sur la croix pour vous, il a proclamé « tout est fait ». Tout est accompli. Jean 19, 30. Et c'est extrêmement important de noter que Jésus n'a pas dit « Je suis fini ». Parce que lui, il n'était pas fini. Il avait encore plus à faire. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie, ressuscité de la mort. Il a marché autour de Jérusalem pendant 40 jours. Il a rencontré des individus et des groupes qui allaient jusqu'à 500 personnes, nous dit la Bible, avant de monter au ciel. Alors, qu'est-ce qui est fini? Le paiement de votre salut. La phrase « tout est accompli » ou « tout est fini » n'est en réalité qu'un mot unique en hébreu que Jésus a proclamé. Il fut tamponné sur les factures payées, sur les peines de votre... J'allais dire ça... Sur les peines de prison révolues. Vous aviez des... Une peine qui était au-dessus de votre tête, le salaire du péché, c'est la mort. Ça signifie que Jésus, en réalité, a payé en totalité. La religion dit « fait », Jésus dit « non, c'est un fait accompli. Il s'est déjà chargé des faits de votre salut. Gardez ça bien profond dans votre cœur. Gardez ça bien profond dans votre cœur. Sinon, le diable va vous accuser de toutes sortes de trucs. Il va vous manipuler, il va faire de vous un religieux. Il est religieux, mais mon Dieu. Je regarde sur Internet, ça devient de la folie. Non. Non à la religion. Je dis souvent, j'aime Jésus, mais je suis devenu religieusophobe. Tout est accompli. Il a tout fait pour vous, pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses bien à faire. Bien sûr que j'ai des choses bien à faire, mais pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé. Vous ne faites pas le bien pour être sauvé, mais parce que vous êtes sauvé, parce que vous aimez Dieu. Alors, vous faites ce qu'il dit, parce que c'est une relation d'amour entre lui et vous. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine et à dimanche. Au revoir.